Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Côté club, c'est ouvert. Ça se passe au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. Vous connaissez le sixième étage, la lumière. Vous entrez et là, de 22h à 23h, toute la scène française se donne rendez-vous. Bon, ce soir, ils sont deux. Yarol Poupeau et Jean-Baptiste Guillot. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Il est électrique, il est éclectique. Son dernier album est à son image, un mélange de rock, de funk, de hard rock, de rap, de new wave et de sonorités africaines. C'est Yarol Poupeau et j'ai même mis le t-shirt, il me va. C'est pas une robe de chambre, généralement c'est du L. Je fais du M, parfait. À ses côtés, Jean-Baptiste Guillot du label Born Bad Records qui fête les 20 ans de sa compilation French 60s Wiz. Quatrième volume Wiz French Psychorama, 16 titres indispensables et inconnus pour mesurer la folie pop des années 1966-1974. Marion ?
Ce ne sont pas quatre garçons dans le vent, mais dans l'ouragan, parce que le rock de Last Train est ombrageux. Privé de concert, pas content, les garçons reviennent avec un documentaire sur l'enregistrement de leur excellent dernier album The Big Picture. On en parle avec Jean-Noël, le chanteur, leader, guitariste, vers 22h30.
Voilà, vous savez à peu près tout. Maintenant, on entend tout, alors bienvenue au club.
Côté club, Laurent Goumard, sur France Inter.
Soirée masculine ce soir, alors on ouvre avec la femme que vous connaissez bien, Jean-Baptiste Guillot, puisque vous éditez leurs albums.
Oui, je ne suis pas seul à le faire, j'ai des partenaires, en l'occurrence Idol, et puis le groupe se produit lui-même. Mais c'est vrai que depuis le début du groupe, c'est moi qui commercialise les vinyles. Voilà.
Le son de mon prochain, en playlist sur France Inter.
Je suis le son de mon prochain. Je cherche le cœur de mon maman pour y planter mes dents. Je t'emporte dans une autre vie, là-haut sous les étoiles d'une autre galaxie.
Si on a choisi l'amour pour toujours. Yarol Poupeau et Jean-Baptiste Guillot sont les héros de Côté Club ce soir. J'imagine, je sais que vous vous connaissez.
Et oui, c'est ça le petit milieu de la musique entre co-sanguins, je disais.
Tout petit milieu.
On se connaît tous.
C'est sûr, c'est pas
tant
possible.
Mieux.
Vous connaissez plus longtemps. Vous avez une passion commune. Enfin, vous avez travaillé avec Johnny pendant quelques années.
Ah ouais, on s'est rencontré longtemps avant que je travaillais avec Johnny. Avec, je sais plus.
Quand il faisait son groupe de punk rock avec Nicolas Hatchin, qui s'appelait les Hellboys.
Voilà,
je l'avais vu à plusieurs reprises en concert. On s'est croisé aussi lors d'organisations de concerts que faisait Yarol, où il faisait jouer les Second Sex et les Nast.
Oui, voilà, à la période de Gibus, gamins. Ouais.
Ah oui,
voilà.
Donc vous vous connaissez depuis les débuts, en fait.
Ah non, les débuts, c'était très très longtemps.
Oui,
avant.
Non, bah, bien entendu, mais enfin bon, quand
au
même.
Au XXe
depuis...
siècle.
Oui, c'est ça. Vous saviez qu'il avait une collection de portraits de Johnny Hallyday?
Ah, c'est marrant que vous sachiez ça, parce que...
C'était un projet normalement pour le MIAM, pour le Musée d'Art Modeste.
Alors,
de Sète.
Pendant très longtemps, j'avais espoir... J'ai acheté frénétiquement sur Le Bon Coin et partout sur Internet les fans qui rendaient avec, on va dire pudiquement plus ou moins d'adresse, hommage à leur star Johnny.
Avec une maladresse confondante.
Et ils avaient des dessins.
Des dessins où il ressemble à Michel Sardou.
Voilà.
C'est incroyable.
Et je m'étais dit qu'à son décès, je constaterais le MAM.
Le musée d'art modeste à Sète.
Le musée d'art modeste. Pour leur proposer une exposition. Parce que je voyais pas de meilleur. Plus beau, enfin, hommage à Johnny que celui-ci. Bon, en fait, au fil des années, je me suis désintéressé. Je me suis désintéressé.
Puis voulu garder la collection pour toi.
De cumuler des merdes à la maison. Mais il y en avait une qui était géniale.
Parce que quand on achète à des fans, c'est super cher.
Et il y en avait ce qui était très drôle, c'est décomplexé, qui avait fait des grosses bouses, qui avait pas de problème pour m'en demander 500, 600 euros.
Ça,
et il y en a une que j'ai pas pu avoir, le mec en demandait trop et qui était pourtant génial. Si on voyait Johnny Hallyday, dans sa cuisine en train de manger des céréales et il avait appelé le tableau, l'idole des jeunes.
C'est vraiment parfait. Yarol Poupeau, un enfant de la musique qui partage une scène à 11 ans avec Jacques Higelin, c'était dans la bio, on vous avait reçu pour ça, qui a joué plus de 200 concerts avec Johnny Hallyday, fait des tas de scènes avec le groupe de Marco Prince, FFF, mais aussi directeur de label, producteur, directeur musical de la dernière tournée de Johnny Hallyday, compositeur de musique de film. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter?
Il
y a toujours quelque chose à ajouter.
Non, plein de choses. Bah, surtout que je sors un nouveau disque.
Deuxième album. En solo. On va en parler dans quelques instants. Jean-Baptiste Guillot, directeur rock du label indépendant Born Bad Records, créé en 2006, en pleine période électro. Monsieur ne fait rien comme tout le monde. Carte d'identité, rock garage, post-punk, mais pas que. Alors, pour se donner une idée de ce qu'est Born Bad Records, avant de parler de la compilation et de votre deuxième album, on y trouve Forever Pavot. Autre inspiration, on y trouve aussi Villejuif Underground.
I'm hiding out illegally from French officials where I cannot be found in Le Vieux Juif Underground.
Voilà, c'est ça, du vrai bon rock indépendant avec ce label. Vous êtes musicien par ailleurs?
Du tout.
Rien?
Non,
pas.
Du tout.
Jamais
rien. Je n'ai pas de frustration de ne pas l'être.
Oh non, mais ça, on le dit toujours.
Souvent, il y a des patrons de label qui
sont
secrètement, quand ils se couchent le soir, se rêveraient sur scène à la place de leur artiste. C'est pas du tout mon cas.
Très bien. Vous êtes toujours directeur de
label? Non, moi par contre, quand je me couche le soir, je me rêve patron de label. Mais...
C'est la grosse frustration pour Yarol Poupeau. Alors aujourd'hui, deuxième album, Hot Light Dynamite, qui sort demain. On écoute un titre qui donne son nom à l'album, un morceau qui donne aussi une idée de ce qui pourrait bien se passer en concert sur scène, quand tout va reprendre. Mais juste avant, vous allez tout nous expliquer, session Hot Light Dynamite, comme sur YouTube.
Donc c'est assez simple, il y a quasiment deux accords, et c'est les accords préférés de Black Sabbath, évidemment. C'est la note du diable. Sauf que là, elle est jouée d'une manière assez funky. Et toute la chanson, en fait, c'est vraiment très simple, c'est... Voilà, Hot Like Dynamite.
We'll be right back. C'est le titre Hot Like Dynamite, un titre qui fonctionne comme un autoportrait pour Yarol Poupeau, deuxième album conçu pendant votre première tournée solo après le premier album intitulé Yarol. Qu'est-ce que ce titre doit à l'énergie de cette tournée?
Tout l'album doit à l'énergie de la tournée. En fait, pendant la première tournée, pendant l'été 2019, donc on avait pas mal de breaks et il se trouve que j'avais un endroit à la campagne, une vieille grange paumée en pleine campagne dans laquelle j'avais monté un petit peu du matos pour pouvoir faire de la musique. Et que dès qu'on avait un break entre deux concerts, avec mon pote Victor Mécanique avec qui j'ai fait l'album et puis les autres membres du groupe, plutôt que de rentrer à Paris, machin, on avait tendance à aller vite faire de la musique là-bas et on avait deux jours off, trois jours off et on s'enfermait, on commençait à jouer ensemble, à écrire des chansons, à triper et on repartait sur la route et on réécoutait un petit peu ce qu'on avait fait comme ça, sans trop y faire gaffe pendant deux, trois jours et dans le camion, putain, mais celle-là, elle est vachement bien, puis là, on devrait peut-être fouiller, puis là, il y a une bonne direction, puis ça, c'est cool et ce groove-là est bien et peut-être on pourrait, il y a peut-être une chanson qui... Voilà, et puis petit à petit, en fait, l'album est né comme ça, quoi, entre des breaks pendant les concerts.
Pleine d'influence, hein, du funk, du rock, on y trouve des accents rap, de la new wave, du hard rock sur le titre, par exemple, Bullet in the Head, c'est pas le seul d'ailleurs, c'est le syncrétisme.
Moi, je me pose pas trop la question, en fait, au final.
Quand je dis ça, c'est pas un titre qui serait hard rock, un titre qui serait nouvelle, c'est-à-dire que dans un même titre, il y a toutes les influences qui se mixent les unes aux autres.
C'est ce qui m'a construit en tant que musicien, c'est ce qui fait mon identité aujourd'hui. Je veux dire, pendant une journée, moi, je peux me réveiller le matin. Je pense que JB est comme moi. Je vais écouter Fela au réveil. Je vais écouter Motorhead en allant me coucher ou dans l'après-midi. Et puis entre les deux, j'aurais écouté un truc de rap ou un truc de Robert Johnson ou je sais pas quoi. Enfin, j'écoute plein de genres de musique. J'ai absolument aucune chapelle à part le fait que ça me touche, que ça me plaise. Et voilà. Donc quand je fais de la musique, pareil, je réfléchis pareil. Je me dis pas, tiens, je vais faire un album de blues rock ou je vais faire un album de rockabilly ou je vais faire un album de soul. Non, j'essaie de saupoudrer un peu toutes mes chansons de toutes ces influences.
C'était pas vraiment le cas dans le premier album. Il y avait cette tendance-là, mais là, c'est véritablement très assumé.
Oui, dans le premier album, il y avait déjà cette volonté-là, mais c'était peut-être un peu plus un morceau comme ci, un morceau comme ça.
Enfin, voilà.
Voilà, c'est-à-dire que ça a été un peu plus là, un morceau un peu plus funk rock, un morceau un peu plus au niveau de la production. Et là, j'ai voulu justement aller plus loin dans la construction même des chansons, c'est-à-dire que vraiment... Et j'ai voulu vraiment faire un album qui s'écoute un peu comme un album. C'est-à-dire que c'est vraiment un espèce de... Comment dire
C'est pas un album concept, mais il y a une dramaturgie.
Voilà, il y a un espèce de voyage où à l'intérieur même des chansons, on se barre dans plein de directions et ça vaut le coup de... Il y a plein de morceaux, moi, des fois, que j'écoute où j'ai l'impression d'avoir tout compris dès les 40 premières secondes et ça m'ennuie un petit peu. Donc là, il y a pas mal de surprises. Il y a des accidents un petit peu. J'aime bien les accidents.
À l'intérieur des titres. Le deuxième album qui ne répète pas le précédent, qui vous sort un peu de la zone de confort que vous pouviez avoir, c'est Victor Mécanique aussi qui a travaillé à ça, plus jeune que vous, d'une autre génération, 28 ans. Il vous a emmené dans des directions à laquelle vous ne vous attendiez pas, par
complètement,
exemple.
Oui.
Même dans le chant.
Oui, dans le chant, parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble sur les mélodies. Et en fait, lui, il a un bagage beaucoup plus, comment on va dire, pop. Ouais. Que le mien, c'est-à-dire que lui, ses vraies influences, c'est Stevie Wonder, Paul McCartney. Alors moi, je serais voilà un peu plus des influences soul, rhythm and blues et tout. Et donc lui, il avait vraiment ce bagage plus pop et mélodiquement, c'est-à-dire que quand on avait trouvé un riff ou une espèce de groove ensemble, lui, moi j'avais peut-être une ébauche de chansons, de mélodies, mais lui, du coup, pouvait m'emmener un peu plus loin et développer un peu plus. Et puis, même à l'intérieur d'une chanson, trouver un break avec une espèce de structure harmonique un peu plus écrite, on va dire, un peu plus élaborée que ce que moi j'aurais pu trouver avec mon bagage plus blues et plus... Tu vois...
Plus blues, oui, véritablement.
Vous êtes dans on ne peut pas dire que le blues n'est pas élaboré, mais...
Vous êtes dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que vous pouvez écouter tout genre de musique.
Oui, tout à
alors
fait.
Alors même que vous avez une fondation, on va dire, rock garage.
Oui, plutôt rock, mais ouais. Oui, c'est
selon les moments de la journée. Voilà, on n'a pas forcément les mêmes envies, et c'est vrai que je ne me prends pas trop la tête avec ça.
Ouais,
et
voilà.
Il y a très peu de musique que je n'aime pas, en réalité. Hein. Je suis plutôt bon public.
Ouais, moi aussi, pareil.
Il y a des genres que vous n'aimez pas du tout?
J'ai du mal avec le rap. Voilà. Ah. Français?
Oui. Bon. Et encore, moi, des fois, je me force et je trouve des trucs pas mal.
Des trucs super, en fait.
Oui, oui, mais
moi qui n'étais pas client au départ, c'est vrai que depuis quelques temps, là, depuis quelques années où je m'y intéresse.
T'as pas écouté 911 de Damso, là?
Non.
Alors, c'est bien ça.
Ouais, c'est vachement bien. C'est sur la playlist de France Inter. Alors, ce qu'il y a aussi, ce sont des titres en français. Ah ben, oui. Non, mais il ne le savait pas. Enfin, je lui avais glissé un petit papier. Hein. C'est pour ça que j'ai mis un t-shirt. Il y a des titres en français, ça faisait partie de vos envies aussi?
Ça fait toujours partie de mes fantasmes, oui. C'est-à-dire que, effectivement, le fantasme de réussir à faire du rock en français, c'est
Il y en a plein qui ont réussi, quand même.
Ah, plein?
Ben oui.
La femme.
Il y en a. Oui, ben voilà, exactement. En tout cas, oui, je sens qu'effectivement, il y a une nouvelle génération de gens beaucoup plus décomplexés là-dessus et qui, en tout cas, y vont et se lancent dans le truc. Moi, quand j'ai commencé, c'était plus compliqué. Et oui, je suis ravi de chanter des morceaux en français.
Et pour écrire en français?
Alors, j'ai plus de mal.
Voilà. Donc, c'est là où intervient l'Escope.
Voilà, c'est là où intervient.
Notamment l'Escope.
Sur le premier album, j'avais fait des chansons avec Benjamin Biolay. Mais là, sur celui-ci, je me suis retrouvé à un dîner, en fait, organisé par mon tourneur, Alias. Et on était assis côte à côte, on a le même tourneur avec Mathieu, l'Escope. Et on parlait de qu'est-ce que tu fais en ce moment et tout. Bah, je suis en train de faire mon album, et toi, machin, bam, bam. Et puis, j'aimerais bien avoir des paroles en français. Bah, viens, je fais un essai, si tu veux. Ouais, bah, super, passe à la maison. Et puis, ça s'est fait comme ça, d'une manière très naturelle. Et j'aimais bien, justement, son univers et ses mots qui, peut-être des fois, marchaient avec les morceaux un peu plus funky, mais il avait des mots peut-être un peu plus noirs, un peu plus dark. Que lui, il vient plus d'un milieu, d'un univers un peu plus, plus dans la musique, un peu plus new wave, peut-être, tout ça. Et donc, du coup, j'aimais bien
cette tension.
Ce mélange des deux, ouais.
Et voilà ce que ça donne. Ça change vraiment de direction par rapport au titre qu'on a écouté tout à l'heure. C'est qu'on voit les différentes pistes qu'il peut y avoir dans cet album.
Moi, les albums qui m'ont toujours fait kiffer quand j'étais môme, c'était des albums complètement éclatés. Enfin, je veux dire, les grands disques, loin de moi l'idée de me comparer à tout ça, les grands disques des Beatles, de Led Zepp, des Clash et tout, étaient des albums où il y avait, ça se barrait dans tous les sens. L'album blanc des Beatles, London Calling ou les disques de Led Zepp, on peut avoir un petit truc avec une mandoline un peu folk, machin, un peu limite irlandais, puis un gros riff de guitare après. Et enfin voilà, moi c'est ce que j'aime dans un disque, c'est quand il y a du relief, qu'effectivement, comme je le disais, on voyage, on se balade. Si c'est pour faire 12 fois le même univers, le même truc plus ou moins rapide, plus ou moins, ça m'intéresse moins. Moi j'aime bien justement me balader et prendre des risques et m'embarquer dans des directions. Enfin, c'est même forcément, c'est même pas réfléchi comme ça en fait. C'est comme ça que ça se passe.
Ça a été enregistré à Motorbass.
Non, alors.
Alors c'est quoi cette histoire? Non.
Ça a été mixé à Motorbass.
Ah d'accord.
Ça a été mixé à Motorbass, ça a été accouché à Motorbass, mais ça a été justement ce que j'aimais bien. En fait, on a enregistré beaucoup des musiques, des orchestrations dans un studio vraiment en pleine campagne, paumé au milieu des Deux-Sèvres, coupé du monde. Avant même que confinement il y ait, hein, c'est de toute façon quand on enregistre.
Vous aviez prévu le coup, en fait.
non, mais c'est pas ça. Mais en fait, nous quand. Enfin, depuis que moi j'ai fait des disques, quasiment les trois quarts des disques que j'ai faits, je les ai faits en conditions de confinement avec FFF. On partait au fin fond de la campagne anglaise ou répéter dans la Drôme, me couper du monde pendant 3 mois. Donc, en fait, là, on a enregistré dans un studio à la campagne. Donc, il y avait ce truc qui était super quand on enregistrait, de vraiment être complètement concentré, pas avoir aucune distraction autour, enfin voilà, vraiment être à fond dans le truc. Mais par contre, pour finir le disque, pour le mixer, pour vraiment le finaliser, j'étais content d'être dans une énergie plus urbaine, plus parisienne, plus autour de chez moi, à Montmartre. Et puis ce studio Motorbass, c'est un studio
magique.
Vous connaissez?
Oui, bien sûr. Vous connaissez, bien sûr. C'est le studio.
Bien sûr.
Ouais. Voilà. Qui était donc, à l'origine, qui a commencé quand même dans les années 60, avant que Félix Star s'y intéresse. Gainsbourg y est passé.
Exactement, ça s'appelait Continental dans les années 60, 80, ouais. De Dominique Blanc-Francard avait enregistré là-bas plein d'albums justement assez dingues. Et puis c'est un endroit qui a vraiment une âme, qui a un feeling. Et effectivement, ce qu'en avait fait Philippe, de la vibe et puis du son et tout, c'est vraiment pour mixer, c'est un studio fantastique.
Vous parlez de FFF, et bien sûr, FFF est là, c'est le retour du refoulé avec un morceau.
Qui refoulé?
Non, Marco Prince, bien sûr. Sur télévision, et bien c'est l'album, c'est le titre qui clôt l'album. Always warming one laughter. Black sky. retrouvé Marco Prince et Harold Pupo. Vous avez retrouvé vos marques tout de suite, tous les deux?
Bon, enfin, je ne l'ai pas vraiment trouvé parce qu'on ne s'est jamais perdu. Hein. On a toujours continué à se voir, on est toujours très potes. Et puis, on a toujours continué à faire des trucs. Bon, là, ça fait quelques années qu'on n'a pas...
joué ensemble, quand même.
Joué ensemble, mais on avait refait des concerts en 2014, 15, 16, qui étaient déments. Enfin, voilà, on est toujours très, très proches, donc...
Vous l'avez vu sur scène, Harold Pupo, Jean-Baptiste Gléo?
Alors, je l'ai vu à l'époque de ses groupes de punk rock.
Ouais. Pas après? Pas avec Johnny?
Je l'ai pas vu avec Johnny.
Non. Ah,
non. Non, non.
Il a fait 200 concerts.
Je sais bien, mais...
T'as pas vu les dessins que j'ai fait de Johnny?
Non, non. Il est inquiété.
Qu'il vend 500 euros.
Voilà, sous pseudonyme. Non, j'ai pas le privilège de le voir.
Les prochains concerts, c'est pour quand alors? J'imagine que tout a été annulé, reporté. On en est où maintenant, Harold Pupo?
Bon, vous êtes censé mieux savoir que moi.
Ah non.
Non.
Moi, Roselyne ne m'a rien dit pour vous.
Moi
à
non
votre
plus,
sujet.
Roselyne.
Pour l'Opéra de Paris, je sais tout, mais pas pour vous.
Nous, on a de la visibilité, là, pour l'instant, sur quelques concerts à la fin du mois de juin. Pour l'instant, c'est ce qu'on a de prévu. Quelques
D'accord.
concerts, mais qui sont vraiment des trucs, limite,
En plein air, alors?
Oui, en plein air, et puis des trucs un peu confidentiels, et des, enfin, voilà. C'est...
D'accord.
Le concert tel que on l'a.
Vous le rêvez, tel qu'on le connaît.
C'est-à-dire ouais. le club blindé avec 300-400 personnes dedans, à fond la caisse, qui pogote et qui se rentre les uns dans les autres, je sais pas trop.
Ah bah non,
encore,
ça, je peux vous le dire, c'est pas pour ça.
J'espère le plus tôt possible. En tout cas, oui, bon, voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'on a quelques options pour cet été.
Harold Pupo, on va se retrouver dans quelques instants, mais tout de suite, c'est le choix playlist de Jean-Baptiste Guillot, Mansfieldia, Auf Wiedersehen. Un mot sur ce titre, peut-être, pour lancer...
Non, du tout.
Non, du tout, rien de plus.
Je ne pas. Non, si, je croisais de temps en temps Rebecca Warrior, mais ouais. C'est pas des gens que je connais, en fait.
Mais c'est des gens que vous aimez. Ouais. On y va.
Oui, voilà, que j'aime par principe, l'état d'esprit dans lequel ils sont, qui va bien au-delà de la musique qu'ils font, d'ailleurs. Voilà, il y a un truc dont je me sens proche, évidemment, c'est des gens engagés.
Ça n'est plus mon problème, non. Je ne me retourne pas. Ça n'est plus mon problème, non. Tu ne me laisses pas le choix. Ça n'est plus mon problème. Dorénavant, il ne te reste que ma voix. Amen et Auf Wiedersehen. Ça n'est plus mon problème.
Solo de guitare et moins de blabla.
Sur France Inter.
Qu'est-ce qu'il disait ça?
Mirwais.
Ah, c'est Mirwais quand il est venu,
oui.
C'est ça. Plus de solo de guitare et moins de blabla. Oui.
C'était génial.
Jean-Baptiste Guillot, Yarol Poupeau sont nos invités. Et maintenant Marion Guilbeault. Ça rime?
Bah bien sûr, tout à fait, on l'a fait exprès de toute façon. Last Train a commencé sa vie sur scène, comme beaucoup de groupes de rock, vous allez me dire, mais eux, ils ont vraiment joué partout, du café-concert alsacien au Vietnam, tout le temps, 250 dates entre 2015-2017 avant d'enregistrer leur disque. Le deuxième et dernier, The Big Picture, est sorti en septembre 2019, un disque puissant, audacieux, avec même une dimension épique. Un disque a marqué un tournant dans la vie du groupe alsacien à tel point que Last Train, privé de concert, a décidé de raconter l'odyssée, parce que c'est vraiment ça, de cet enregistrement dans un documentaire, c'est diffusé sur Jack, et c'est Jean-Noël Scherrer, guitariste, chanteur, qui est au bout du fil. Bonsoir Jean-Noël.
Bonsoir.
Bienvenue dans Côté Club avec Yarol.
Merci pour l'invitation.
Ouais, Yarol Poupeau, Jean-Baptiste Guillot, vous les connaissez, j'imagine?
Non, on s'est déjà croisés, et Yarol bien plus que ça même.
Ouais, ça va mon pote?
Très bien, et toi?
Ouais, grave.
Jean-Noël, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était dans ce studio, le 621, pour The Big Picture. Et ce soir, on va reprendre contact avec vous, avec votre énergie, votre musique, avec un documentaire donc, qui retrace l'enregistrement de The Big Picture. Un enregistrement qui commence en Norvège, dans un studio qui s'appelle Ocean Sound. Alors juste, en quelques mots, il est où exactement? Il ressemble à quoi, ce studio?
Mais écoute, ce studio, il est à l'ouest de la Norvège. Nous, on cherchait justement à trouver quelque chose d'un peu différent, de sortir des sentiers battus, de partir de la France déjà. On a cherché des studios en Allemagne, en Angleterre. Et puis, on est tombé sur ce studio, sur des photos absolument magnifiques d'un studio qui était un peu perdu au milieu de nulle part, entouré de l'océan. Et puis, c'est ce qu'on a découvert en arrivant là-bas. C'est en fait une seule et même cabine de prise de son qui est assez immense. Ce qu'on cherchait, parce qu'on avait envie de jouer tous ensemble dans une même pièce, qui était entourée de baies vitrées. Ce qui est un peu particulier pour un studio, mais qui nous permettait en fait de voir l'océan en même temps qu'on enregistrait. Donc, c'était banco.
Ah oui, sur les images, c'est absolument magnifique. Et qu'est-ce qu'il y avait sur place? Alors, vous parlez de cette cabine, on peut faire les prises, mais je crois qu'il y avait aussi une console Neve, assez rare, non?
Bah, écoute, je crois que l'idée, on en a discuté avec notre réal Rémi Guetlif, qui est aussi la voix du documentaire qui est sorti hier. L'idée, c'était de trouver un peu tous les éléments qui nous convenaient. Donc forcément, un endroit qui était loin de chez nous, qui, comme je te le disais, sortait un peu des sentiers battus, mais aussi là où on pouvait se sentir techniquement à la maison. Donc avec un certain nombre d'éléments techniques importants, la console, les magnétos à bandes, un certain nombre de parcs, micros, des amplis en fait qui nous sont chers et qui correspondent à notre son.
Yarol, vous avez un souvenir d'un studio à part, comme celui dont parle Jean-Noël?
Oui, j'en ai plusieurs, mais effectivement, là, ce dont parle Jean-Noël me rappelle l'album, le studio Rich Farm, dans lequel on avait enregistré le deuxième album d'FFF, qui est perdu dans la campagne anglaise, genre à peut-être 150 km, 200 km au sud de Londres. Et pareil, c'était un ancien manoir anglais du 16e siècle, magnifique, et la grange avait été aménagée en studio. C'est un studio dans lequel avait bossé Ozzy Osbourne, Black Sabbath, plein de gens, puis après Oasis, enfin c'est vraiment un espèce d'endroit. Et pareil, il y avait cette espèce de grande pièce dans laquelle on pouvait jouer tous ensemble et qui était démente, tout en bois, avec tout le charme de la... On serait très cru dans un tableau de Turner, quoi, à chaque fois qu'on se réveillait le matin. Ça, et un autre aussi, un Maureen Heights au Canada aussi, qui est un studio autour d'un lac, hallucinant, avec une grande baie vitrée sur le lac.
Jean-Noël, vous appliquez une méthode qui a fait ses preuves, c'est-à-dire beaucoup de répétitions avant d'entrer en studio. Les titres sont presque donc finis, presque composés, et pourtant, il y a eu des titres qui ont résisté. Un en particulier, c'est celui qui donne son nom à l'album, The Big Picture. Alors, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas? Est-ce que ça a duré? Parce qu'il dure quand même plus de 10 minutes sur l'album, hein, ou c'est son propos?
Écoute, je sais pas, je crois que en fait, il y avait beaucoup d'attentes de notre part avec ce titre-là. La genèse de ce titre en particulier, c'est celui d'une envie de faire une balade rock longue, tout en émotion, tout en intensité, avec une montée en puissance. Il y a quelque chose d'assez spontané, d'assez tragique, d'assez dramatique dans cette chanson qu'on avait envie de retrouver sur le disque. Et vu qu'on aime bien le romantisme, on s'était dit, de toute façon, une chanson comme ça, il faut qu'on la fasse en une seule prise. Et donc, je crois qu'on attendait vraiment le moment pour le faire. On a essayé de travailler le plus possible en amont du studio. Et puis un soir, assez tard d'ailleurs, on s'est dit, allez, tentons-la, faisons-la. Au pire, ça marche pas, c'est pas grave. On a fait une prise et c'est celle qui est sur le disque. Et c'est très bien comme ça. Il y a ces petites erreurs, mais je crois que ça fait partie du charme de la chanson.
Alors, il y a plein d'images hein, très sympathiques hein, dans ce documentaire, mais surtout quand on est un groupe où vous êtes copains depuis l'enfance ou presque, mais on voit quand même que c'est pas toujours évident de se mettre d'accord. Alors, qui c'est qui a le dernier mot? C'est vous? Est-ce que vraiment, démocratie, groupe de rock, c'est antinomique, on est d'accord?
Mais oui, non, ça n'existe pas. En fait, tu sais, quand on a regardé les premières fois le master du documentaire, on l'a regardé et on s'est dit... On raconte pas grand chose quand même. On raconte quand même la vie de n'importe quel groupe de rock. Et en fait, c'est comme ça pour tous les groupes de rock. Je suis sûr que Yarol, il sera d'accord avec moi. En fait, c'est juste des discussions, c'est des consensus, c'est des argumentations. Et t'as beau être les meilleurs potes du monde. Tu vois, nous, on se connaît depuis qu'on a 12 ans. Enfin, j'ai plus d'existence et de durée de vie sur Terre avec les garçons que sans. Et pourtant, ben voilà, il y a des débats qui sont houleux à propos de musique et c'est pourtant que de la musique, tu vois. Donc il y a plein de conflits comme ça un peu paradoxaux qui finissent généralement en moment de grâce et simplement en se disant, putain, c'est trop bien, on a de la chance de faire ce qu'on fait et on va au bout de nos idées, quoi.
Alors moi, je vais dire un truc, Jeannot. Moi, j'ai mis mon nom sur la pochette pour régler ce genre de problème, donc c'est moi qui ai raison. Mais ça me manque. Raison, hein. Ça me manque justement les embrouilles de pas être d'accord. Des fois, je suis là, j'ai besoin justement. Ça m'aidait moi justement de pas être d'accord avec les autres parce que ça me remet en question la certitude que je peux avoir que c'est comme ça qu'il faut faire. Et j'en sais rien moi. Si ça se trouve, je me plante complètement. Et effectivement,
c'est hyper important.
C'est vrai, cette espèce d'échange de groupe, bien sûr.
D'avoir un miroir, tu vois, d'avoir un miroir.
Exactement, je suis entièrement d'accord.
De se conforter dans ton idée, mais d'avoir des retours, même s'ils sont pas forcément agréables à écouter. Au moins, justement, ça te remet un peu à ta place et tu te dis, est-ce que c'est vraiment l'envie que t'as envie de
défendre. C'est très important d'avoir quelqu'un en face de toi qui dit, mais c'est nul ton truc. Retourne bosser.
M'appelez-moi la prochaine fois, je vous le dirai. Si ça peut vous rendre service.
Merci beaucoup, Jean-Noël.
À très vite.
Et puis tu dis bonjour à Antoine, Julien, Timothée. À très bientôt hein, dans La Vraie Vie. On se quitte avec un extrait de cet album. How could I? I've been so Last Train a retrouvé dans The Big Picture, ce documentaire signé Julien Pelletier, c'est à voir sur Jack. Leur tournée et leur Olympia est reportée en mars 2022.
Côté club.
Je n'aime pas les gens à qui on a coupé les jambes et les bras pour leur apprendre à vivre. Ils ont sur la bouche un rire idiot, y a pas de quoi rire. Je suis inadaptée.
Elle est inadaptée, Brigitte Fontaine, héroïne Wiz, du deuxième volume de votre compilation Wiz, Jean-Baptiste Guillot, une compilation de pop 60s, 70s, entre rareté, pépite oubliée. Vous connaissez la série, Yarol Poupeau ?
Bien sûr. Dès le premier album, moi, j'ai tout de suite accroché. Et puis, les filles, c'est fait pour faire l'amour. Il y avait
On l'écoute tout de suite, tiens. Vous devriez faire de la radio, Yarol Poupeau. Vous avez toutes les transitions, parce que ce titre, j'allais le passer, c'est ce qui a lancé, cette compilation en 2001, première édition de la compilation, ouais. Jean-Baptiste Guillot. Ce titre, vous l'aviez trouvé où ?
Au détour d'une brocante, vraisemblablement, comme je passais ma vie à chiner.
C'est devenu un classique.
Et c'est devenu un classique. C'est vrai que maintenant, tout le monde le connaît. Il y a peu de soirées où il ne va pas passer, on va dire. De bonnes soirées, en tout cas.
L'idée de faire une collection comme ça, qui récolte des pépites oubliées, on va dire, de ces années-là, c'était pour raconter quoi ? Une histoire bis de la musique des années 60-70 ? Une contre-histoire officielle de Salut les copains, au départ ?
Oui, c'est vrai que moi, j'ai grandi... Plus jeune, on me rabâchait que sorti des Aznavour, des Piaf, Point de Salut, et qu'on n'avait pas forcément de contre-culture en France. Donc c'était amusant quand, au gré de mes brocantes, j'ai découvert tous ces morceaux, tous ces artistes aux carrières éclair, qui le tournent un 45 tours, parfois deux, comme ça, avaient proposé des choses très alternatives et très différentes, quoi.
Quatrième volume est comme toujours extrêmement documenté. On apprend des tas de trucs sur les chanteurs aujourd'hui inconnus, sur les conditions d'enregistrement. À l'époque, en fait, ce qui est intéressant, parce que je parle à un directeur de label indépendant, il n'y avait pas de label indépendant. C'était des gros labels qui avaient des musiciens, qui étaient des musiciens salariés. Donc ça veut dire d'excellents musiciens, en fait.
Les requins de studio qui étaient salariés et à demeure et qui enregistraient 8 à 9 à 10 heures par jour,
tout et n'importe
kilomètre,
quoi.
Tout et n'importe
et c'est pour
quoi.
Ça que ça sonne bien, même sur les trucs les plus improbables, en fait.
Et même les artistes les plus amateurs sont en réalité accompagnés par tous les cadors de l'époque, quoi, ont eu le privilège de jouer avec les maestros de l'époque.
Ça vous inspire, Cass ?
C'est-à-dire qu'en fait, c'était quand même des gros labels, mais qui étaient quand même indépendants à l'époque. Il n'y avait pas non plus, je ne sais pas vraiment pour tous les trucs, mais...
On parle de Barclay, on parle de Vogue, on parle de Riviera, c'était des mastodontes.
Oui, mais ce n'était pas des majors internationaux.
Mais au-delà des labels, il n'y avait pas une culture du label indépendant, il n'y avait pas cette culture du DIY, c'est-à-dire ces gens qui se lançaient pour s'autoproduire. Cette culture de l'autoproduction n'existait pas.
Voilà. C'est
quelque
beaucoup
chose
plus tard.
Qui arrivait très tard, grâce au label punk, en fait, américain, ou notamment... qui ont servi de modèle à nombreux, à beaucoup.
Mais il y a un truc fantastique, c'est un peu, pour moi, ça m'a toujours fait penser dès le premier volume à ces compiles qu'on a tous écoutés comme des dingues, les Nuggets et compagnie qui répertoriaient tous les petits groupes de garage punk rock, même avant que ça s'appelle punk rock américain et tout. Et là, tout d'un coup, il y en avait un espèce d'équivalent français, redécouvrir des 45 tours, des trucs inédits qu'on n'avait jamais entendus, incroyables. Et donc, c'est génial.
C'était la philosophie de cette compilation, en fait, Jean-Baptiste Guillot. Alors, parmi ces titres retrouvés, on vous en a demandé deux et vous avez choisi pour le premier un extrait du volume 2, alors qu'on est au quatrième.
Maintenant je suis un voyou, je ne traverse plus dans les clous. Partout où je vais, je fais des pieds de nez. Quand je vois un chien, je lui donne des coups de pied. La femme me parle plus, c'est curieux, le torchon brûle entre eux.
Alors,
Pour quelle raison avoir choisi ce titre ? Maintenant, je suis un voyou de l'inénarrable Bruno Leis.
Déjà, les paroles, comme vous avez pu l'entendre, sont quand même très inspirées.
Oui, je suis aussi voyou parce qu'il donne un coup de pied à un clébard. Voilà.
Et puis, ça monte en puissance tout au long du morceau.
J'imagine.
Si vous allez jusqu'au final, vous en aurez pour votre argent, on va dire. Et ce qui fait la singularité de ce titre aussi, voilà, c'est que tous les arrangements sont faits avec des ondes Martenot, qui est un peu l'ancêtre, le papa de tous les synthétiseurs. Donc, cette espèce d'instruments électroniques créés dans les années 20. Et ça, c'était vraiment inédit et insolite, exploité.
Et c'est la plus-value véritablement de ce
voilà,
titre.
Et puis c'est aussi un morceau qui est quand même génial et qui n'était pas sorti à l'époque. C'était quelque chose qui était inédit. Donc c'est quand même rare de trouver des pépites comme ça qui sont restées cachées pendant toutes ces années. Quoi.
Autre extrait du volume 4, cette fois-ci, c'est Boing, chanté par la Suédoise Matti Kemmer. Et c'est son unique 45 tours.
Oui.
On revient sur tes pas, ne regarde pas, ce n'est pas pour toi, hey, boing. Il est interdit de vivre sa vie comme on en vit, boing. Défense de rêver, car pour s'amuser, il faut travailler, boing. Et comme tout le monde entre dans la ronde, pour que tout se fonde, boing.
Avant de vous donner la parole, Jean-Baptiste Guillot, qu'est-ce que vous en pensez, Yarol Poupeau, au niveau musical ?
De Boing ?
De Boing, ouais, parce non, que ça prête à sourire, mais c'est plutôt pas mal.
Non, mais c'est, non, ça ne prête pas du tout à sourire, au contraire, non, c'est hyper... C'est-à-dire que déjà, le son est dément, effectivement, on sent que les musiciens jouent hyper bien. Et puis, c'est dément, justement, de redécouvrir tout ça. Et alors, on en parlait tout à l'heure du rock en français, il y a plein de... Alors, des fois, c'est plus... vite fait peut-être que d'autres, mais il y a plein d'idées à trouver justement pour écrire du rock en français là-dedans, et plein de trucs à piocher des membres.
C'est décomplexé, voilà, c'est voilà. Décomplexé, et puis quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, il y a plus d'idées que dans bien des morceaux actuels, et voilà, c'est des morceaux dans lesquels il y a parfois des fulgurances, et puis qui sont créatifs, inventifs, ludiques.
Alors pour ce titre-là, ça se joue à quel niveau pour vous ?
Oh bah parce que déjà, c'était la seule femme de la compile, ouais. Voilà, honneur aux femmes. Vous avez vu Marion, hein, quand je suis un garçon bien aile, sympa.
Faut vous rattraper, là.
Et puis,
ça veut dire aussi plus, quelque chose. Ça veut dire qu'à
aussi,
l'époque, voilà.
Voilà. Et aussi, parce qu'on l'a pas retrouvé, figurez-vous. Donc, je me disais que si ça se trouve, elle écoute France Inter ou un de ses proches et qu'elle allait appeler le standard dans les minutes qui viennent. Et puis voilà, le morceau lui a été fait par un artiste qui s'appelait Ezra Bouskela, qui jouait dans un autre groupe qui s'appelait Les Orgones, que vous connaissez pas, si ce n'est qu'ils sont devenus peu de temps après Magma. Donc voilà, c'est la petite histoire du rock en France, mais malgré tout, qui va devenir plus importante.
Vous avez cherché à rencontrer justement tous les musiciens.
C'est ça qui est amusant, c'est de retrouver au-delà de... Déjà, le premier travail, c'est évidemment de découvrir ses titres et ses morceaux. Donc j'ai oublié de le dire en préambule, mais cette compil, je l'ai fait avec l'aide d'un ami qui s'appelait Barnabé Mons, parce qu'on n'est pas trop de deux pour dénicher toutes ces perles. Et faut déjà découvrir les morceaux, et puis après, ce qu'il y a sans doute de plus marrant
c'est
et de plus satisfaisant, c'est de retrouver les gens, évidemment. Donc ça, c'est la partie la plus gratifiante, quand, évidemment, vous tombez sur quelqu'un qui a sorti un 45 tours il y a 60 ans, qui n'a pas du tout marché, vous pouvez imaginer son étonnement et sa joie. Et il y a des choses qui sont très marrantes, il y a un artiste, par exemple, sur la compilation qui était tout fier, qui s'appelle Gilles Janeran, parce que son fils était fan du label Born Bad, donc vous voyez génial. À quel point ça a pu le valoriser d'être à son tour compilé et d'avoir les faveurs du label. Donc c'est assez drôle. Et c'est ça qui est amusant, c'est de raconter les histoires de tous ces gens anonymes qui pourraient être, voilà, on peut tous imaginer avoir un oncle, un parrain ou un voisin de palier qui aurait fait partie d'un de ces groupes. Et c'est ça qui est amusant et qui rend tous ces artistes attachants aussi.
Alors ce qui est amusant aussi, c'est de regarder les pochettes. Il y en a une qui est particulièrement croquignole, celle de Paul Dupré. Sur la pochette, on le voit assis, il est en costard, un cigare dans la main droite, un fusil dans la main gauche et une paire de jumelles autour du cou. J'imagine que c'est la pochette qui a attiré votre attention au tout départ.
Tout à fait, voilà.
Ouais. C'est vraiment assez génial.
On a des fils. Voilà, bien sûr.
Alors j'aimerais, moi, qu'on passe un titre que j'ai beaucoup aimé, c'est celui qui ouvre le volume 4, Je suis jaloux, signé de Abdel Wahab Doukali.
Je suis jaloux de celui qui t'a aimé avant moi, même si je ne connais pas. Je suis jaloux de ces mains qui se sont posées sur toi, caressées.
sent ton cou et tes cheveux de soie. Qui sait qui est satisfait? Ses yeux, son cœur et ses désirs avant moi.
Ce qui est intéressant avec ce Adel Wahab Doukali, c'est que c'est pas du tout un inconnu, c'était une grande figure de la musique moyen-orientale.
Oui, au Maroc, tout à fait.
Tout à fait, mais vraiment même assez connu. Et là, il avait tenté une espèce d'intervention sur le marché français avec un twist en musique.
Sur le marché français, voilà, tout à fait, pour y faire sa place. Et puis ça s'est pas converti, ça a pas perduré. Mais voilà, il y avait cette volonté pour lui de... il convoitait le marché français et européen, et la FS morceau assez fin.
Dans les années 60, ouais.
Voilà.
Vous l'avez rencontré ?
Non, alors lui on l'a eu qu'au téléphone, je ne l'ai pas vu physiquement, il est assez âgé, et il habite dans le 18e, on n'a pas eu le plaisir de nous croiser physiquement.
Alors il y a un autre dont le parcours est particulièrement intéressant, ça va aussi pour le parcours des interprètes, on écoute son titre, Patatras Ola.
Je ne peux plus faire un pas, patatras Ola. Trébucher une fois, patatras, oula. Si je faisais 15 pas, je tomberais les 15 fois. Je voudrais pourtant sauter, patatras, oula. Sans pour autant m'étaler, patatras, oula. Juchez sur un escabeau, essayez voir, c'est rigolo.
Richard Hertel, avec un parcours dans la musique dingue.
Bah, c'est dingue, puisqu'il a commencé dans les Gotamou, donc aux côtés, entre autres, musiciens de Bernard Estarny, bien sûr, et qui servait de backing band à Nino Ferrer. Donc il a fait toute sa carrière dans l'ombre de Nino Ferrer. Et ça, c'est le seul qui a le rond de Saint-Tour, qu'il a sorti en solo, qui a été un flop. Mais voilà.
Et puis il a fini sa vie en étudiant justement de la musique régionale. On peut dire qu'il y a eu tout un parcours de ce musicien. Mais écoutez, on va se quitter avec un autre musicien, pas du tout régional, international, Noël Gallagher, en solo, ou presque, puisque depuis 2011, il a son groupe, les High Flying Birds. Après 3 albums, 3 EP, Noël Gallagher revient avec son premier best-of titré Back the Way We Came, volume 1, 2011-2021. Et on y retrouve cet inédit dans Côté Club.
What might have been had I walked you home. I said I'd see you later. You were living the dream, but when the morning comes, you're gonna meet your maker. Good luck in the afterlife. I hear the morning doesn't cast no shadow. You chose to drift away, but look at you now.
Now, but on the way now, the
Et bien voilà, c'est la fin de Côté Club. Merci Yarol Poupeau. Merci à vous.
Merci à vous.
Hot Like Dynamite, comme vous, ça sort demain. Et puis merci pour le t-shirt. Merci Jean-Baptiste Guillot. Wiz, French Psychorama, la compilation 4e volume. On attend la suite. Et puis on resignale hein, ce que vous avez sorti sur Vassiliu, qui est excellent. La chronique de Marion Guilbeault, qu'il faut réécouter sur l'album Salvador. Henri Salvador. Passionnant. Marion.
The Big Picture, c'est le titre du documentaire consacré au groupe Last Train. Et c'est à découvrir sur Jack.
Côté club, c'est toujours le Wiz, Stéphane Le Guenec à la réalisation, à la technique ce soir, Benjamin Troncin, programmation, Marion Guilbeault, Virginie Rouzic, Alexis Goyer et Tiphaine Mendes avec Muriel Pérez aux playlists. Demain, Côté club sera électro, une soirée côté clubbing avec le 5e album de Perturbator, plus dark et post-punk que jamais. À ses côtés, Jennifer Cardini viendra fêter chez nous la sortie de la compilation Intermezzo Uno, Intermezzo Duo avec un DJ set rien que pour nous. Marion, ce sera les nouveautés nouvelles.
Ben bien sûr, 3 nouveaux sons à découvrir, Sabrina Bellaoui, Il est vilaine et Minuit Machine.
Côté club, on ferme. Je vous souhaite le bonsoir. Alors à demain.
On commence du côté.
Oui.
Club.
Bye. Bye.